ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre.
Bonjour, je m'appelle Salomé et en 2023 et en 2024, j'ai écrit une sorte de petit essai que j'autoproclame comme étant un essai. Donc pour moi, un essai, la définition que j'en ai retenue, c'est ouvrage regroupant des réflexions diverses. L'autrice y traite un sujet qu'elle ne prétend pas épuiser. Elle y expose ses idées et ses opinions personnelles. Donc j'ai écrit cet essai toute seule en autonomie. Je prétends pas du tout être ni écrivaine ni sociologue. Il traite de mes relations amoureuses, entre autres. Je les nourris par beaucoup de lectures, beaucoup de discussions aussi avec plein de gens qualifiés ou pas. Voilà, donc c'est plus des bribes de pensée autour du sujet, voilà, mes relations amoureuses, un peu le lien qu'elles peuvent avoir avec les systèmes dans lesquels on gravite. Voilà, donc j'en ai fait une sorte de petit podcast slash livre audio que vous allez écouter maintenant si vous avez envie. Bonne écoute.
On dit merci monsieur pour les traumas.
Bah ok, ma femme, me demande pas hein, si tu sais ce que je vais te dire.
Tu le rentres jamais dedans.
Nous sommes à la recherche du prince charmant.
Ah, c'est toujours pareil, un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants.
Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse.
Une princesse, la sorcière, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses.
Partie 1. Mal-être hétérosexuel. J'ai longtemps dénigré et volontairement relégué au second plan de mes priorités intellectuelles le sujet de l'amour, malgré le fait qu'il m'ait toujours animé. Je le clamais pas fièrement que ce sujet m'intéressait et qu'il me questionnait, parce qu'il était trop, dans ma tête, associé à un truc de fille, aux livres romantiques que je lisais adolescente. Je ressentais ça comme un sujet futile et décrédibilisant, comme du bavardage, des potins, quoi. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, se refait tous les jours. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses. Les petites choses, mignonnes, féminines. Virginie Despentes, King Kong Theory. Alors j'ai vécu quelques expériences amoureuses où je me suis retrouvée dans la posture d'infirmière, de maman, à porter toute la charge mentale du couple, etc. Et à ce moment-là, je pensais que ce que je vivais, c'était des histoires uniques et que les freins à ces histoires, ils venaient de ma personnalité ou de celle de mes partenaires. J'arrivais pas à trouver une place agréable qui me convenait dans la cellule du couple. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, bah, j'étais pas la seule à être confrontée à ces problématiques-là. En parlant avec mes amies, beaucoup mes amies femmes, je me rendais compte qu'elles vivaient la même chose, plus ou moins consciemment, et qu'elles en souffraient plus ou moins selon leur sensibilité, leur vécu.
Sensible de mauvaise humeur, je parle mal, c'est toujours la faute de la fatigue. Oublie les vacances, c'est pas, on peut rien prévoir. Ta vie est calée sur mon planning. Passif agressif, je veux pas voir tes amis. Je fais tout passer sous prétexte, je suis un artiste. Rien n'est jamais bien pour moi, je sais pas qui fait. On s'embrouille pour choisir un film. Je décroche mon tel en plein film. Le taf passe toujours en premier. T'es seul dans notre lit. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble.
Donc je me renseigne un petit peu et effectivement je me rends compte que depuis quelques années, ce sujet il est traité moins comme une question de l'intime personnel et anecdotique, bien comme un sujet politique. Parce que cette cellule intime, elle est modelée par des systèmes dans lesquels on évolue. Et au-delà du bien-être et du développement personnel de chaque individu dans son quotidien, c'est sur des histoires d'amour et sur le couple que repose beaucoup de notre organisation sociétale. La famille, le mariage, les enfants... Et je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être un bon levier d'action révolutionnaire. Comment on peut vivre ou construire une histoire d'amour qui subirait au minimum l'influence des systèmes dans lesquels on évolue. Je ne vais pas revenir longtemps sur tout ce qui, dans le modèle du couple hétéronormé, mais inconfortable. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Évidemment, en livre, il y a « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » écrit par Mona Chollet. Un très bon podcast qui existe en livre aussi, il y a Le cœur sur la table pour une révolution romantique de Victoire Tuaillon.
Je crois qu'on est de plus en plus à trouver ça inconfortable, l'hétérosexualité. Pas tellement de désirer des hommes, mais tout ce que trop souvent ces relations entraînent. Tout ce qui pèse sur nous toutes depuis si longtemps, que les luttes féministes ont enfin permis de nommer. La condescendance du mansplaining, les micro-violences ordinaires, la charge mentale, la charge domestique, émotionnelle.
J'ai envie d'un truc léger où on se pose pas de questions, quoi.
Sexuel.
Bon, moi, j'aime pas trop les capotes, en fait, parce que, enfin, on sent plus rien. Ça te dit pas, on fait sans ?
On est beaucoup à se demander où est la sortie. Comment on résiste concrètement? Si on n'en peut plus de la soumission hétérosexuelle ordinaire et qu'on refuse de renoncer à l'amour, alors je me dis qu'il va peut-être nous falloir renoncer à autre chose. Et je me demande à quoi? À la cohabitation? À la monogamie? Au couple? À l'amour romantique? À l'hétérosexualité?
L'escalator des relations, concept social. Alors l'Urban Dictionary, il le définit comme étant l'attente sociale selon laquelle une relation romantique doit automatiquement suivre un ensemble d'étapes et mener au mariage, à la parentalité et à l'accession à la propriété. Amy Grahan le définit comme une norme selon laquelle la plupart des gens évaluent si une relation intime qui se développe est significative, sérieuse, bonne, saine, engagée ou mérite d'être poursuivie ou maintenue. La première étape, ce serait le flirt. La deuxième, ce serait devenir sexuellement et émotionnellement monogame. La troisième, ce serait définir la relation, présentation en public en tant que couple. La quatrième, ce serait emménager ensemble. La cinquième, le mariage. Ensuite, acheter un bien immobilier, partager les finances, avoir des enfants. Et la dernière étape, ce serait vieillir ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escalator des relations. Avant de découvrir l'image de l'escalator, je comparais mes relations à la pratique de l'escalade. Dans cette métaphore, le couple, il est symbolisé par une corde qui relie deux individus. Donc chacun assure l'autre et ils grimpent ensemble. Et plus on s'engage émotionnellement dans la relation, plus on grimpe haut. Et on prend du coup le risque de se blesser si l'assureur manque de concentration ou de fiabilité. Et une relation saine, elle reposerait du coup sur une assurance réciproque. Bon, après, il arrive que l'assureur soit pas fiable ou que le grimpeur prenne des risques inconsidérés malgré les avertissements. Dans ces moments-là, ce serait essentiel de prendre du recul, d'évaluer la dynamique de la relation. Est-ce que je ne m'épuise pas à hisser quelqu'un qui ne grimpe pas par lui-même? Est-ce que je grimpe trop sans être réellement assuré? Est-ce que je me laisse porter par une assurance trop serrée au point d'avoir l'impression que grimper c'est facile alors que c'est mon partenaire assureur qui fait tout le travail? Ou bien est-ce que la personne avec qui je grimpe avance plus vite que ce que je suis capable ou prête à assurer? Ces questions m'aident à réfléchir à la réciprocité et à l'équilibre dans mes relations. Quand je grimpais avec quelqu'un, j'avais tendance à me lâcher complètement, par exemple. Peut-être pour tester si l'assureur pouvait réellement m'assurer, en fait.
Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, il faut qu'il me sauve. Il faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Il faut que je sois plus déprimé. Il faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il faut qu'elle soit miraculeuse. Il faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut te sortir de toi.
Je m'étais dit, j'en attends trop, c'est moi le problème. Bon, après, j'avais pas conscience que cette attente, elle venait aussi d'une construction sociale. Si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques aux demandes affectives exorbitantes, et les hommes pour des êtres solides, autonomes, à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premières, sont pris en charge et comblés de manière aussi élevée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Mona Chollet réinvente l'amour.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière, que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien, que tu refasses mes stocks de sérotonine, que tu me dises que c'est rien.
Les femmes lisent d'innombrables livres de développement personnel, écoutent des podcasts, consultent des conseillers de carrière, cherchent du soutien auprès de leurs amis, dépensent des petites fortunes en thérapie pour soigner d'anciennes blessures ou régler les nouveaux problèmes. Et les hommes de leur vie se reposent simplement sur elle. Mélanie Hamlet, journaliste. J'ai été bercée par l'idée qu'une femme doit s'occuper de son mari, qu'elle doit veiller à son bien-être et à combler ses manques.
Je ne savais pas à quoi je servais. Maintenant, maintenant, je le sais. Mes yeux ne sont faits que pour te regarder. Mes lèvres ne servent qu'à t'offrir mes baisers. Mon oreille a compté les battements de ton cœur et mes mains à saisir et garder ta chaleur.
Conquérir un homme et tout faire pour le rendre heureux ne peut pas constituer l'intégralité de ton projet existentiel. Victoire Tuaillon, le cœur sur la table. Cette construction, elle est tellement ancrée en moi que je le reproduis inconsciemment dans mes relations au détriment de mes propres besoins. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est si moi je pense à lui et que lui, il pense à lui, bah qui pense à moi?
Nous sommes à la recherche du prince charmant.
Ah, c'est toujours pareil, un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants.
Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse.
Une princesse, la sorcière, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses.
Partie 2. Je suis sa maman. Un jour, on me diagnostique une endométriose. Et je suis confrontée à l'idée que ça puisse affecter ma fertilité. Et une question m'est venue en tête assez naturellement et ça a révélé pour moi un des sujets centraux de mes relations hétérosexuelles. La question c'est, quel intérêt de construire une relation solide avec un homme s'il n'y a pas la projection de faire des enfants ensemble ? Et c'est fou parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'envie d'en avoir, même à très long terme, avait influencé mes relations actuelles. Et c'est la raison qui me faisait persister à subir ce que je subissais.
Ton papa m'attend quelque part, des fois je crois le voir mais il ne te ressemble pas, non. Je l'imagine père, je l'imagine mari, je l'imagine fier, je l'imagine fragile. Je nous visualise à trois dans le parc, toi sur la balançoire, puis tous les trois dans le sable. Je m'imagine mère, je m'imagine bénie, je m'imagine fier d'avoir donné la vie. On sera beau, crois-moi, on sera bien dans ce monde, avec le temps on sera plein et vous portez.
Je m'accrochais parce que si je voulais avoir un enfant, je devais prendre l'escalator, même si ça impliquait de vivre une domination quotidienne et de m'éteindre à petit feu.
Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon.
Au-delà de ça, je passais moi-même dans une posture de maman. Donc une posture de maman, moi je la définis comme être à l'écoute des besoins des autres, deviner les désirs de son conjoint, rechercher son confort, être attentive à ses manques, essayer de le préserver des difficultés de l'existence. Le rôle d'une maman, ça se tient au sein du foyer, donc c'est avant tout intérieur. Elle est l'élément de stabilité, peu fantaisiste. Elle a la charge du rôle affectif, mais pas l'autorité. Elle met de l'énergie à ce que tout ça reste léger et invisible pour ne pas que l'autre se retrouve avec la charge de lui être redevable. Et elle est aussi paradoxalement perçue comme fragile et une personne qu'on doit préserver et materner. La perspective de l'escalator me fait basculer dans cette posture dès l'étape de la monogamie. Et si la possibilité d'aller juste en haut de l'escalator existe dans ma tête, alors j'accepte de subir. Bon alors, j'essaye de régler ce problème. Donc j'essaie de dissocier la parentalité du couple, une fois que je m'en rends compte, pour arriver à m'extirper du rôle de maman. Après, évidemment, ça vient pas que de moi. Et dès l'étape du couple, on me range aussi systématiquement dans cette case, même si je m'y range pas moi-même.
Surtout ne dis rien à ta mère, elle en mourrait. Laisse-la avec ses chimères, sois sans regret. Elle est si vulnérable et tendre, si désarmée qu'elle ne pourrait pas comprendre. Mais à côté, qu'elle ne voudrait pas m'entendre. En liberté, vous vous trompez, vous vous trompez. Maman, elle est pas si bien que ça. C'est pas Thérèse d'Avila, c'est loin d'être la Sainte Vierge. Ça ne l'amuse vraiment pas, vos précautions et vos gamberges, vos silences au bruit de ses pas. Ce qu'elle veut, c'est pas des cierges, votre respect lui reste là.
La 16, c'est un mot qui est important là pour la suite, donc je vais le définir comme l'ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit par le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel ou moral. En gros, c'est une privation physique, voulue et héroïque. Donc la 16, c'est un concept religieux, on subit mais on choisit de subir. Et la monogamie, pour moi, ça s'apparente à une forme d'ascèse. Il s'agit de contraindre ses envies ou ses pulsions physiques, les envies de relation hors de sa relation principale, que l'on évite de vivre par respect du contrat monogame. Pour faire perdurer la relation, pour arriver en haut de l'escalator, parce que c'est ce qui est bien de faire, entre guillemets. J'ai rapidement vu la 16 comme une privation non nécessaire et violente de mon corps et de mon être. J'entends ça comme une dissociation du corps et de l'esprit, alors que les deux sont liés. Cette dissociation, le déni de ses envies et de ses besoins physiques, elle peut mener à un enfermement mental. Je me suis alors dit que ma sensation d'enfermement dans le couple était peut-être scellée par cette privation de ma liberté physique. Et que cette ascèse, elle constituait une contrainte morale non nécessaire qui me servait seulement à m'auto-convaincre que c'était une bonne chose de subir ma situation. De là, j'en suis venue à la conclusion de la nécessité de déconstruire la monogamie. De quel droit je peux imposer une contrainte à l'action d'un corps qui n'est pas le mien ? Qu'est-ce qui octroie ce droit-là à autrui vis-à-vis du mien ? Le concept même d'exclusivité me posait problème en ce qu'il incarnait une forme de contrôle. Il n'est pas seulement question d'aller voir ailleurs, même si cette perspective est attrayante, il est question de ne plus chercher à posséder l'autre, le cœur sur la table. Je me suis dit que ça pouvait être un bon levier symbolique pour faire sauter la dynamique de contrôle général dans le couple. Il s'agit de reconnaître que l'autre ne nous appartient pas et de permettre à chacun de mener sa propre vie tout en étant engagé dans une relation. La liberté sexuelle comme un symbole de notre liberté générale.
Nous sommes à la recherche du prince charmant.
Ah, c'est toujours pareil, un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants.
Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse.
Une princesse, la sorcière, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses.
Partie 3, polyamour. Nous voilà embarqués dans l'aventure polyamour, ou non-monogamie. Passer d'une relation de couple exclusive au polyamour, pour moi, c'était un peu comme découvrir le bloc à l'escalade après avoir seulement grimpé en voie. Le bloc, c'est une discipline à l'escalade qui est pratiquée sans corde ni baudrier. On grimpe tout seul sur des rochers ou des murs et c'est limité à 4 mètres de hauteur. Et il n'y a pas de corde. Là où grimper en voie, du coup, c'est avec la corde et on grimpe à deux, on est relié à l'assureur. Quand on grimpe en voie, on avance à deux et toute la pratique repose sur la confiance mutuelle et la coordination. Le bloc, à l'inverse, c'est une discipline où chacun grimpe seul, à son rythme, dans un espace partagé avec d'autres. Il n'y a pas besoin d'être relié à quelqu'un. Chacun explore ses propres chemins en toute autonomie, tout en profitant de la présence collective. Passer de grimper en voie à la salle de bloc, c'est changer de perspective et apprendre une nouvelle façon de grimper, ou ici, d'être en relation. On passe d'une verticalité où tout repose sur un duo à une approche plus libre où chacun trouve sa voie parmi les autres. Toute seule, sans indication, ni personne pour m'assurer, seulement moi. Je découvre un terrain où, entre autres, on est responsable de sa propre sécurité émotionnelle. J'y teste plusieurs formats de non-monogamie, le polyamour, le couple libre. J'y questionne la possession de l'autre, mon individualité. Ça m'offre une toute nouvelle perspective sur ma propre liberté. Ça me permet de comprendre que mes partenaires, qu'ils soient émotionnels ou sexuels, ne sont pas en compétition entre eux, tout comme mes amis ne le sont pas. Et par extension, je me détache aussi de l'idée d'être en compétition avec les autres personnes avec qui mes partenaires relationnent. Au milieu de ces constellations d'être, j'ai appris à penser à moi, l'autonomie émotionnelle. Avec mes tendances à la dépendance affective, j'avais l'habitude d'alterner entre des relations où je glissais dans cette dépendance et des phases de célibat où je rejetais complètement l'amour, en adoptant une ultra-indépendance. Et ces extrêmes, loin de résoudre mon problème, ils faisaient que l'accentuer. Donc je découvre ces relations libres où il devient essentiel de réfléchir à mes propres limites. Je travaille donc à ne pas attendre de mes partenaires un soutien émotionnel systématique. Il y aurait beaucoup à dire de mon expérience dans la salle de bloc. Je pense que j'y ai appris énormément.
De l'amour, y a pas d'annuaire, c'est aussi avec plusieurs partenaires. Nous faut-il être courageuse quand on est polyamoureux ?
Dans ma dynamique de recherche de liberté individuelle, je n'y avais pas vu le libéralisme et l'individualisme qu'elle incarnait. La liberté au-dessus de tout peut être la négation du vivre ensemble. C'est là que j'ai réalisé qu'en plus du patriarcat, le libéralisme jouait aussi un rôle dans les relations que je pouvais avoir. Et que déconstruire la monogamie, c'était peut-être pas la réponse ultime à la révolution amoureuse. Les relations libres, dans toute leur volonté révolutionnaire, elles peuvent finalement aussi être dominées par ce système qu'elles combattent. Dans celle-ci, on peut rapidement devenir des objets de consommation de l'amour. On profite d'une relation jusqu'à ce qu'elle nous semble épuisée, inintéressante, on arrête de le vivre. On ne va prendre que ce qui nous convient d'une personne sans la prendre en entier. Tout le monde n'est qu'objet jetable. En fait, ça me donnait l'impression que mes mauvais côtés, c'était des défauts et que j'étais un objet défectueux. Et je mettais beaucoup d'énergie pour compenser ça, pour pas qu'on me jette. Et Évidemment, c'était aussi le cas dans mes relations monogames, mais dans la non-monogamie, je me retrouvais volontairement dans cette situation. Ou si je compensais pas mes défauts, si je vivais une période où ces défauts prenaient beaucoup de place, c'était ok que mes partenaires préfèrent vivre mieux ailleurs et qu'ils puissent revenir quand je serai de meilleure compagnie. C'est la fast fashion des relations. Et la différence avec une relation monogame, c'est qu'on ne perd rien vers ça parce qu'on peut choisir de ne partager que le bon côté de chaque relation. C'est à double tranchant, parce que bien que ça puisse être agréable à vivre, on se retrouve facilement seul dès qu'on aura un petit pépin à gérer de notre côté. Et la dimension révolutionnaire que je donne aux relations humaines disparaît ici. On ne passe que du bon temps ensemble, c'est tout. C'est presque du divertissement. C'est doux et léger, moins dur, mais moins constructif. Ce livre n'appelle pas au retour des valeurs de la famille et de la communauté, ni à une réduction des libertés. Il prend toutefois très au sérieux les critiques féministes et religieuses à l'égard de la liberté sexuelle, selon lesquelles la liberté a laissé le pouvoir tentaculaire du capitalisme dominer le champ de l'action et de l'imagination. Si on veut que la liberté ait un sens, il faut être en mesure d'appréhender les forces invisibles qui nous aveuglent et font de nous des sujets, au fond, toujours soumis. Eva Illouz, La fin de l'amour.
Nous sommes à la recherche du prince charmant.
Ah, c'est toujours pareil. Un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants.
Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse.
Une princesse, la sorcière, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses.
Partie 4. Libéralisme, consumérisme. Si on revient au couple monogame, tout notre inconscient qui a intégré ce que signifie être en couple nous pousse à nous comporter comme tel à partir du moment où on se considère comme tel. Donc ça lisse nos individualités et notre personnalité. On nous donne un rôle que l'on joue naturellement quand la pièce de théâtre du couple se met en place. C'est comme des contrats préécrits, standardisés. On rencontre quelqu'un, on vit un début singulier, sur lequel on vient poser un contrat standard qui force tout ce qui dépasse du cadre à y rentrer. J'ai eu envie de déconstruire un peu ces cases, pour ne pas imposer ce contrat standardisé à toutes mes relations. Alors j'ai essayé d'utiliser des couleurs, comme un outil de non-enfermement. Faut imaginer que ce qui se crée entre deux personnes a une couleur. Les personnes en elles-mêmes, elles n'ont pas de couleur. C'est la relation qui crée la couleur. Il ne s'agit pas d'essentialiser quelqu'un à une couleur, mais découvrir ce qui s'éveille naturellement entre deux personnes, ce qui nous plaît à partager. Et qu'une rencontre devienne une amitié ou une histoire d'amour, elle peut prendre plusieurs directions. Au lieu de freiner ce qu'elle devient en la rangeant dans une case préconçue, j'essaye de la percevoir comme une couleur unique qui n'a pas de prérequis. Les couleurs ne sont pas en rivalité. Elles ne sont ni comparables, ni en compétition, et surtout, elles ne sont pas performatives a priori, si on ne leur donne pas de signification. Si je vis du orange avec une personne et du vert avec une autre, c'est simplement différent. Je peux avoir envie ou besoin de orange à certains moments et de vert à d'autres. Dans les relations monogames, j'avais tendance à me mettre en couple avec une relation, disons, verte et à attendre du orange soudainement dans les moments où j'en avais besoin ou envie. Puis à mal vivre le fait que cette personne et moi ne vivions pas de orange. Pourtant, si j'aimais passer du temps avec cette personne, c'est justement parce que nous vivions du vert. Ce que j'aime avec les couleurs, c'est qu'elles brisent la frontière entre l'amour et l'amitié, qui au lieu d'être des cases distinctes, elles forment un dégradé. Ça remet les différents types de relations au même niveau en termes d'importance. Et je me demande si nos amours et nos amitiés ne seraient pas à gérer de la même manière avec autant d'importance et de valeur. La dérive des couleurs. Au début, j'avais attribué des significations aux couleurs. Une couleur pour les discussions sérieuses, une autre pour les rires plus légers. Et j'en ai parlé à mes amis, et les couleurs sont devenues un outil de communication entre nous. Viens, on fait du orange. Ah, j'aimerais bien partager moins de vert avec toi. Mais rapidement, les couleurs, elles ont pris notre forme. J'ai commencé à les voir utilisées comme essence des gens. Toi, tu es rose et moi je suis bleu, donc ça ne peut pas marcher entre nous. En recréant des nouvelles cases, en plus, j'avais mis en lumière des dominations sociales avec certaines couleurs qui étaient valorisées en fonction des milieux d'origine. C'est redevenu des cases qui enfermaient, avec en plus des dimensions de hiérarchie entre les couleurs. Bon, au final, je me suis dit que c'était essentiel de garder les couleurs pour ce qu'elles sont, rien d'autre que des couleurs, sans signification. C'est un outil intime, un moyen de se comprendre soi-même et pas un instrument de communication ou d'analyse partagée. Si on revient au concept d'ascèse du début, mon avis a évolué. La connotation négative, elle s'est estompée, et le concept même de l'ascèse, il est pour moi finalement pas fondamentalement mauvais. Si on considère cette privation partielle de liberté comme un outil contre le système libéral, on peut voir l'ascèse comme un soin. Pour soi, sa relation, et pour l'autre. Tout réside dans le pourquoi. Il ne s'agit pas de faire de l'ascèse en oubliant complètement ses propres limites et de se faire vivre des choses qui ne nous conviennent pas. L'ascèse ne doit pas venir valoriser une soumission volontaire. C'est plutôt trouver un juste milieu entre ses besoins physiques et psychologiques et la valeur qu'on donne à une relation et à une personne. L'ascèse est intéressante à pratiquer parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la liberté sexuelle totale qu'on n'est pas libre en tant qu'individu. Les relations libres, elles peuvent être un outil pour gérer ce sentiment d'enfermement et de non-liberté, mais elles nécessitent beaucoup de temps, d'énergie et de dialogue. presque plus que dans un couple normé, donc c'est pas la simplicité non plus. Je pense qu'expérimenter ces formats, ça m'a permis de me cerner, de m'enraciner dans mon individualité et de comprendre mes limites. Et la déconstruction de l'escalator, elle me permet d'avoir le choix. Je peux choisir d'être seule et libre, ou d'être avec des gens, amis, famille, amour, et d'être un peu moins libre. La 16, elle me permet que ce deuxième choix fonctionne, en faisant des concessions pour permettre le vivre ensemble. L'autoconnaissance, la gestion des émotions, le dialogue et le respect de soi et des autres, c'est des clés. Il n'y a pas de bon choix en fait, c'est que des clés.
Nous sommes à la recherche du prince charmant.
Ah, c'est toujours pareil, un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants.
Mais c'est pour la sorcière, pour qu'elle devienne une princesse.
Une princesse, la sorcière, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à vouloir changer les sorcières en princesses.
Voilà du coup une partie de mes réflexions à un moment donné sur ce sujet. Réflexions qui continuent d'évoluer, réflexions avec lesquelles des fois je suis en désaccord et puis des fois je retourne vers elles. En tout cas, j'espère que ça aura fait au moins naître des questionnements. Et merci d'avoir écouté.
Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est tout le temps et pour toujours. Est-ce là que l'on attend quand on est des amants dépendants? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est des regards en coin secret. Est-ce qu'on se condamne à ça quand on n'ose pas faire le premier pas? Aucun amour ne se ressemble. C'est comme une ombre dans le dos. Qu'est-ce qui nous lie et nous rassemble? Est-ce un choix ou le fait-on parce qu'il le faut? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est d'être servi tous les jours. Est-ce là que l'on affiche quand on prend sa meuf pour sa bonige? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est trouver ma première fois. Est-ce cela que l'on doit quand on est ado depuis 2 mois? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est des inscriptions gratuites. Est-ce là qui nous habite quand on est une dating geek? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est la violence romantique. Est-ce là qui nous fout la trique quand on est un pervers narcissique? Aucun amour ne se ressemble. C'est comme une ombre dans le dos. Qu'est-ce qui nous lie et nous rassemble? Est-ce un choix ou le fait-on parce qu'il le faut? Aucun amour ne se ressemble. L'amour, y a pas d'annuaire, c'est aussi avec plusieurs partenaires. Nous faut-il être courageuse quand on est polyamoureuse? De l'amour, y a pas d'annuaire, c'est aussi des partenaires non binaires. Est-ce la nuit que les rues sont à moi quand on est LGBTQIA? L'amour c'est sans partenaire aussi, heureuse celles qui ne partagent pas leur lit. Bien sûr que l'on peut être entière quand on est célibataire. De l'amour y a pas d'annuaire, c'est aussi sans partenaire. Bien sûr que l'on peut être